Bonjour à tous. Pour commencer, je vais me présenter. Je ne le faisais pas avant, mais je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas qui parlait. J'ai 27 ans. Je suis tombée dans le baptistère quand j'étais petite. Je suis une ancienne Toulousaine. J'ai quelques souvenirs ici. Et je suis journaliste depuis 5 ans, justement formée à l'école de journalisme de Toulouse. Ce thème me parle parce que j'ai bien évolué dans ma spiritualité, des sessions de parérémonial où j'ai fêté tous mes anniversaires enfant, au chemin neuf, qui m'a aidée à ne pas perdre la foi pendant mes études. Je me suis mieux retrouvée dans la spiritualité des carmes et des dominicains quand je suis entrée à l'université. Et je vis désormais dans la paroisse de Saint-Louis des Chartrons, à Bordeaux, qui est justement un savant mix entre le décorum de la liturgie tradie et une liturgie plus moderne avec par exemple des servantes de messe. Pour revenir à nos moutons, vous participez au congrès mission pour chercher des clés, vous édifier ou créer des synergies dans nos communautés catholiques. Merci d'être présent déjà cet après-midi. Et avant que nos trois participants qui ont accepté de témoigner à cette table ronde sur le thème « Faut-il s'aimer entre catholiques pour mieux évangéliser ?» se présentent, je vous propose de confier cet échange à la Vierge Marie. Nous venons de le faire, mais nous allons prier à nouveau que l'Esprit Saint veille sur les mots que nous allons utiliser afin qu'il touche nos esprits et nos cœurs pour nous faire grandir en sainteté. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En préparant cette conférence, j'ai essayé d'ouvrir ma Bible et je suis bien sûr très rapidement tombée sur cette phrase de Saint Jean 13:35. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Oui, mais en vrai, est-ce que c'est si simple d'aimer son prochain, même entre catholiques? Les divisions au sein de l'Église existent. Elles ne sont pas nouvelles, mais sont-elles des divergences irréconciliables ou des différences qui nous enrichissent? Où placer le curseur? Comment ne pas oublier que la croix du Christ nous transcende? Pour évoquer ce grand débat sur l'amour fraternel, que nous aurions aussi pu intituler « Catho tradi, catho chacha » et « Si on s'aimait enfin pour mieux évangéliser », Anne Cazenave, Rémi Lafaille et Jean-Pierre Denis ont accepté de témoigner devant vous aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter, Jean-Pierre Denis.
Merci. Se présenter. Ben écoutez, j'ai cru comprendre que j'étais là parce que j'étais là pour remplir un double quota. C'est toujours avantageux puisque je suis à la fois toulousain, donc je pense que c'est à ce titre que je suis présent, et parisien puisque je suis né à Toulouse et je travaille à Paris. Donc ça avait cette double vertu qui permettait de cocher deux cases à la fois. Voilà. Sinon, je suis journaliste. J'ai longtemps dirigé le magazine La Vie, que les traditionalistes appelaient parfois La Vie ex-catholique. Mais ça, c'était une autre époque. Et je suis actuellement à Bayard, où je suis l'éditeur d'un certain nombre de magazines, dont Prions en Église et puis La Croix pour ses éditions internationales. Voilà.
Bonjour, donc moi c'est Anne Cazenave, je viens du diocèse de Tarbes-Lourdes, donc je ne suis pas toulousaine. Voilà. Et en fait, j'ai été contactée pour cette table ronde puisque je fais partie de la communion du chemin neuf. Voilà, qui est le chemin neuf étant une communauté catholique à vocation œcuménique. Donc les questions d'unité sont vraiment au centre, voilà, de la spiritualité de cette communauté, ancrée sur la spiritualité de Saint Ignace. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente Rémi Lafaille, 31 ans, juriste en droit social. Et ma participation, je pense, à cet événement, c'est surtout pour vous expliquer, je suis paroissienne dans une paroisse dite traditionnaliste, Mestre Dantine. J'avais lâché la foi après ma première communion, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ 2 ans. Et la messe tridentine a été un vecteur de mon retour à la foi. Et pour ceux que ça intéresse, ils pourront me poser des questions là-dessus et on pourra débattre dans la charité avec les gens qui ne pensent pas comme moi. Voilà.
Alors, faut-il s'aimer entre cathos pour évangéliser ? On va aborder cette question en trois points. Le premier, c'est tous catholiques, mais parfois divisés. Qu'est-ce qui nous oppose ? Parce qu'il faut quand même mettre un peu la plume dans la plaie avant de parler de comment mieux se réconcilier. Le deuxième point, c'est comment se rejoindre et réconcilier nos divergences pour mieux s'aimer et évangéliser. Et le troisième point sera tous catholiques au service du Christ. Comment la co-construction est-elle possible ? Alors, pour le premier point, on peut dire que de la fraternité Saint-Pierre au Christ-Roi d'une part, de l'Emmanuel aux communautés nouvelles en passant par le chemin neuf d'autre part, les propositions spirituelles ne manquent pas. Une diversité qui est riche et qui pourtant peut déranger et diviser. Et avant d'évoquer ce qui nous rassemble, ce que je vous disais juste à l'instant, et malgré les échanges que nous avons eus pour préparer cette conférence, vous avez tous fait montre de beaucoup de tolérance et d'ouverture d'esprit. Nous allons, il est bien vrai, et c'est mon métier, mettre la plume dans la plaie, crever l'abcès s'il y en a un, et surtout mettre en valeur nos différences qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Alors Anne Cazenave, est-ce que choisir sa paroisse, c'est avant tout une question de sensibilité ? Quelles sont finalement les grandes différences qui peuvent opposer les cathos tradis et les cathos chacha, puisqu'on les appelle comme ça ?
Bon, alors je dirais que on ne choisit pas vraiment sa paroisse dans la mesure où, par exemple, moi je suis, j'ai grandi à Versailles et je suis arrivée dans un petit village des Hautes-Pyrénées, tout près de Tarbes. Et là, il y avait un clocher à côté de ma maison. Et donc, voilà, je me suis dit, j'ai été plantée là. Et pour moi, c'était une évidence d'aller dans cette paroisse et de participer. Ensuite, c'est vrai que par rapport à notre chemin de famille, à un moment donné, donc nous avons 5 enfants et il y avait surtout des vieux dans cette paroisse, enfin des personnes de mon âge en fait. Et c'est vrai que les enfants, ils avaient envie de retrouver leurs copains le dimanche. Donc pendant un temps, je dis bien quelques années, nous avons été à Tarbes où il y avait une messe, où il y avait beaucoup de familles et beaucoup d'enfants. Et pour nous, c'était vraiment important que nos enfants puissent goûter à la joie de la célébration, à la joie de se retrouver autour du Seigneur. Voilà, donc choisir ma paroisse, j'avoue que je ne me suis jamais posé cette question. Voilà, j'étais plantée là et donc pour moi, c'était une évidence de m'enraciner là où j'étais, sachant que je n'étais pas en plus du cru et qu'on reste longtemps des étrangers en terre occitane.
En revanche, vous avez peut-être noté quelques différences, c'était la deuxième question, qui peuvent opposer peut-être les catholiques tradis et les cathos chacha.
Alors c'est sûr qu'il y a des différences. Disons que moi, avec ma culture chemin neuf depuis plus de 40 ans, voilà, c'est plutôt issu du renouveau charismatique. Donc c'est vrai que ma sensibilité m'a porté davantage vers cette communauté. Et que pour moi, les tradis, c'est vrai que ça a toujours été un petit peu épidermique, dans la mesure où j'ai grandi à Versailles et qu'il y avait beaucoup de clivages entre les deux clans, j'allais dire, les deux parties. Mais je crois que c'est un chemin et qu'en fait, au cours de sa vie, la foi n'est jamais linéaire. Donc moi, pour moi... cette communauté du chemin neuf nous a vraiment porté, aussi bien personnellement qu'en couple ou dans notre famille. Et pour moi, c'est une évidence de cheminer avec elle. Ceci dit, je pense qu'avec ce chemin qu'on a toujours à faire de conversion pour accueillir l'autre, je suis beaucoup moins vigoureuse dans mes critiques ou mes vis-à-vis des tradis. Et j'essaie de les comprendre, mais voilà, je crois que c'est un chemin permanent et que c'est jamais gagné.
Osons le dire franchement, peut-être un peu pour écluser le sujet aussi, le thème sous-jacent de cette conférence pourrait être catho de gauche ou catho de droite, comment se réconcilier ? Nos divergences, est-ce que finalement elles sont théologiques ou politiques ? Comment s'aimer ? Jean-Pierre Denis.
Alors pardonnez-moi de renverser tout de suite la table...
Vous m'aviez prévu.
Et de mettre un peu de désordre. Mais de quelle différence parlez-vous ? De quelle différence parle-t-on ? Vous savez, je me reviens à une phrase de Saint Jérôme qui disait « Il faut être du parti de Jovinien ou de mon parti, il n'y a pas de juste milieu. » Alors moi, évidemment, je suis comme Saint-Jérôme. Je pense qu'il faut être de mon avis et qu'il n'y a pas de juste milieu avec les avis des autres. Néanmoins, si je dis ça, parce que Saint-Jérôme, il a écrit contre Jovinien 2 livres. Il a écrit contre Origène, il a écrit contre les Juifs, malheureusement. Enfin, il a écrit beaucoup de livres contre. Donc, à l'époque des pères de l'Église, ça a chauffé pas mal. Donc là, aujourd'hui, on a des sensibilités, comme ça, on se dit, oulala, on n'est pas d'accord, c'est embêtant. Mais voilà, à l'époque des pères de l'Église, ça chauffait vraiment. Et puis, on ne s'envoyait pas des petits noms, des qualificatifs sympathiques, hein. On se disait, ben, tu es un hérétique, tout simplement. Voilà. Donc, et d'ailleurs, pour la petite histoire, le fameux Jovinien, tout le monde l'a oublié, parce qu'on se souvient de lui uniquement parce qu'on connaît les insultes que lui adressait en 2 livres, donc Saint-Jérôme. Donc voilà, donc, déjà c'était très divisé. Et puis aujourd'hui, on parle de cateau de gauche ou cateau de droite. Oui, bien sûr, il y a des sensibilités. Il y a des évolutions, il y a des mouvements qui traversent l'opinion publique et dont l'opinion publique catholique elle est traversée par ça aussi, bien sûr. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Dieu merci, vous avez des catholiques qui sont complètement écartelés parce qu'ils sont complètement contaminés par la polarisation de la société américaine. Et c'est vraiment, à mon avis, très, très, très problématique pour l'avenir du catholicisme aux États-Unis. Et je pense que ça annonce chez eux des jours très, très, très difficiles. Alors chez nous, c'est quand même un peu plus calme. Et c'est pas mal. C'est pas mal que ce soit plus calme. Et puis, bon, je faisais ce petit voyage dans le temps avec Saint-Jérôme, mais on aurait pu en prendre plein d'autres, dans l'espace avec les États-Unis. Mais en France, si on reste en France, il me semble que c'est pas si tendu que ça par rapport à ce que ça a été dans les décennies qui ont passé. Ça a toujours été compliqué, mais bon, par exemple, je disais que j'ai longtemps dirigé l'hebdomadaire La Vie. Si vous preniez avant mon arrivée, dans les années 80, les éditos de La Vie et les éditos de Famille Chrétienne, c'était extrêmement différent. On avait peut-être l'impression que c'était presque 2 églises catholiques complètement différentes. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est interchangeable, parce qu'il y a de la sociologie, il y a de l'histoire, il y a des sensibilités, il y a des affinités, ça va quoi. En fait, sur le fond, on voit bien, on comprend bien, en fait, c'est surtout ça, on comprend bien qu'il y a des différences de sensibilités qui sont liées à des histoires, à des communautés, à des personnes, mais tout le monde les a remises à leur juste place, c'est-à-dire que sur le fond, on est quand même conscient de ce qui nous réunit et que c'est l'essentiel. Donc je trouve qu'on a tendance à un peu surestimer, exagérer ces divisions, et puis peut-être, alors là c'est peut-être un élément qui peut être évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord, mais comme il y a eu un changement de pape il y a une petite dizaine d'années, ça a bouleversé des équilibres, voilà. Donc il y a un cycle qui s'est terminé, il y a un nouveau cycle qui s'est terminé. Du coup, tout le monde est un peu déstabilisé parce que ceux qui étaient d'accord sont plus d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord sont d'accord. Et là encore, on a tendance à exagérer, en fait. On a tendance à vraiment exagérer. Ça m'a beaucoup frappé au moment de la venue du pape François à Marseille, où finalement, il y avait autour de ce voyage, on pouvait ne pas être d'accord avec tel ou tel position qu'il prend sur la question des migrants, par exemple, qu'il a longuement abordé, qui était le motif de sa visite. Mais quand même, on voyait bien qu'il y avait... c'était le pape qui venait, malgré tout, en France, et qu'il y avait une certaine unité des catholiques. Donc voilà, c'était pour relativiser, peut-être ouvrir le débat, du coup.
Bon, le débat, on va beaucoup l'ouvrir dans une seconde partie. Mais sans relativiser, on peut retrouver une certaine radicalité et chez les tradis et chez les chachas. Radicalité au sens étymologique du terme, bien sûr. Et ce sont des propositions qui plaisent au monde, qui rassemblent. Et ce sont des églises qui, en général, ne sont pas trop vides. Rémi Lafaille, vous avez trouvé une réponse à votre soif de Dieu auprès du Christ-Roi dans cette communauté-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a touché dans cette paroisse ? Qu'est-ce que vous avez reçu que vous ne trouviez pas ailleurs ?
Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je suis en aucun cas le porte-parole du Christ-Roi ou des tradis de manière générale, où je fais figure de nouveau venu, puisque ça fait que 2 ans, entre guillemets, que je suis revenu à la foi. Je ne suis pas du tout dans une famille avec des minivans et des filles avec des serre-têtes et des jupes plissées. Donc, c'était juste pour situer ma personne. Alors, ceci étant dit, ben, justement, moi, je viens d'une famille de... pas de tradition dans le sens traditionnaliste, mais une famille qui avait des... qui pratiquait toujours le mariage, la première communion, qui allait à la messe à Noël, etc., mais qui n'était pas pratiquante. Donc j'ai fait ça toute mon enfance jusqu'à la première communion. On m'a dit jusqu'à la première communion, c'est obligatoire, donc tu y vas. Après la première communion, j'ai un peu lâché le fil pendant un certain temps, à savoir 20 ans quasiment. Et ponctuellement, je me disais, non mais Rémi, il faut te ressaisir, il faut retourner à l'église, c'est ça la vérité, vas-y. Et j'allais dans des paroisses qui, malheureusement, ne correspondaient pas à ma sensibilité, qui correspondaient à d'autres sensibilités, c'était très bien. Mais moi, ce que je cherchais, c'était du sacré. Des concerts de guitare, il y a des très bons guitaristes. Je peux payer pour aller voir un très bon guitariste. Et j'ai pas besoin d'avoir un ersatz de guitare à la messe. C'est pas ce que j'attends, mais après je comprends très bien qu'il y en ait qui veulent égayer, partager leur joie avec cet instrument. C'est vraiment pour faire le cliché. Hein. Mais cette approche-là, je me disais, il y a un truc qui cloche, ça ne me correspond pas. Et la tonalité des sermons, on me parlait du monde, on me parlait de ce qu'il fallait faire en termes de politique, et je suis un passionné de politique, donc dans un sens ça me parle, mais précisément, je n'allais pas à la messe pour entendre parler du politique, mais pour parler de quoi ? Du sacré, du spirituel, du salut de mon âme. Et j'étais un peu orphelin de tout ça. La sociologie aussi des paroissiens, ben, c'était pas vraiment ma tranche d'âge, etc. Donc bon, je faisais des excursions, des raids par-ci par-là dans des paroisses modernes, si je puis dire, et toujours un peu orphelin. Jusqu'à ce que j'entende parler de la nouveauté de la tradition, entre guillemets, puisque pour moi, la tradition, je n'en avais jamais entendu parler. Je ne suis pas une famille traditionnaliste, je n'avais jamais assisté à une messe en latin, ou tout au plus, j'avais vu traîner un vieux missel de mon arrière-grand-mère dans la maison familiale, mais guère plus. Donc bon, j'ai vu ça, j'étais très seul. Pendant le Covid, j'étais dans une ville où je ne connaissais personne, où je ne pouvais pas faire grand-chose. Et il y avait une toute petite chapelle perdue au milieu des champs, avec une communauté soudée, où j'ai eu la curiosité d'aller pousser la porte. Et justement, là, j'ai trouvé ce que je cherchais, à savoir le recueillement, faire un peu une pause dans le monde et essayer d'élever mon âme par la recherche du sacré et du beau, tout simplement. Et après, on dira toujours, le beau, c'est une question de sensibilité, et c'est pour ça que j'entends très bien que pour certains, c'est contre-productif. Mais pour moi, ça me permettait d'élever mon âme et de vraiment mieux comprendre le mystère de la messe, qui est la réitération non sanglante de la passion de notre Seigneur. Donc voilà, tout simplement, j'ai trouvé du sacré, du beau selon mon sentiment, et une sorte d'intemporalité et d'universalité, puisque comme je le disais, j'ai pu dire, je voyage beaucoup, et peu importe l'endroit où je voyage, si je vais dans une paroisse traditionnelle, entre guillemets, je sais les chants qui vont être chantés, je sais comment ça va se passer, je n'ai pas à me soucier du matériel, je peux vraiment prendre le temps pour élever mon âme, ou essayer de le faire, parce que c'est pas toujours couronné de succès, malheureusement.
Ce décorum de la liturgie tradie, tel qu'on le définit aujourd'hui, hein, pour faciliter le débat, vous, Anne Cazenave, c'est vraiment l'inverse. Vous la recevez pas du tout comme ça, et pourtant vous avez grandi à Versailles. Vous me disiez dans les discussions qu'on avait avant cette conférence que les soutanes, ça vous hérisse, et que quand vous voyez les enfants de chœur dans ces messes-là, vous avez juste tout simplement l'impression qu'ils sont déguisés, et ce sont vos mots.
Oui, effectivement, c'est vrai que ça m'a hérissé, je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a hérissé pendant des années, et c'est vrai que ben, quand je vois un prêtre qui célèbre dos au peuple, c'est vrai que bon, ça, j'ai toujours un petit serrement de cœur, voilà, quand... voilà, les soutanes, enfin, toute cette forme. Mais en fait, ce n'est que... Enfin, moi, j'ai un peu évolué quand même, je vous disais, avec ça, parce que pour moi, tout ça, ce n'est la forme. Ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on a dans le cœur et comment on se tourne vers le Christ et comment on a envie de vivre cet amour que le Christ nous enseigne. Donc, mais c'est vrai que malgré tout, je trouve que c'est toujours quand même voilà, un lieu de où je dois me décentrer de moi-même et d'accueillir ce qui m'est donné de vivre aujourd'hui. Bon, et si Je vais dans une paroisse par hasard en rite tridentin parce qu'il n'y a que cette messe-là dans l'endroit où je suis. Si par hasard ça arrivait, ben, j'irai à cette messe, c'est sûr, parce que pour moi c'est important de prendre ce temps communautaire, voilà, de l'Eucharistie. Mais c'est sûr que je serai pas forcément très à l'aise, ça je le reconnais, et que voilà. Mais aujourd'hui, je pense que bon, c'est peut-être mon grand âge qui me fait dire ça, mais voilà, je pense que il y a vraiment le Christ nous appelle vraiment. Différents chacun, et qu'on a chacun notre chemin avec lui, et en même temps on a à construire un chemin, voilà, à construire l'église de Dieu, et que pour ça je pense que voilà, il faut que chacun puisse avec l'aide du Saint-Esprit vraiment tourner son regard vers le Christ et les soucis en disant écoute Seigneur, aide-moi à accueillir l'autre tel qu'il est et non pas tel que je voudrais qu'il soit.
Vous nous avez superbement guidés vers notre deuxième partie, qui est justement, et en même temps, et maintenant que nous avons dit tout cela, eh ben, on le sait aussi, la culture chrétienne en France décline, la foi se perd, les chiffres le montrent et le démontrent. Je vous donne un petit exemple, ça va jusque dans l'intimité de nos foyers, c'est l'IFOP, un sondage de 2020, qui explique que déjà, à l'époque, il n'y avait plus que 31% des Français qui détenaient une Bible chez eux. Et je ne vous parle pas de l'ouvrir, hein, simplement d'en avoir une à la maison. Alors, sans perdre l'espérance, est-ce qu'on peut encore dire avec lucidité qu'il est urgent de se réconcilier, de présenter un front commun, uni et apaisé face au monde, Jean-Pierre Denis ?
Mais d'abord, je suis ravi d'apprendre qu'il y a un tiers des Français qui ont une Bible chez eux. C'est énorme.
On peut le voir comme ça.
C'est énorme. S'il l'ouvre, c'est fantastique.
S'il l'ouvre
une fois par an, c'est pas beaucoup, mais s'il l'ouvre tous les jours, ça va changer notre pays.
Après, il y a ELF qui fausse les statistiques. Donc,
Évidemment, si elle est en haut de la bibliothèque ou si elle est dans le grenier, c'est moins bien. Voilà. Pardon, du coup, j'ai oublié la question.
La question, c'était, sans perdre l'espérance, peut-on dire avec lucidité qu'il est urgent de se réconcilier, de présenter un front commun, uni et apaisé au monde ?
Alors, quand j'écoute ce que vous dites, il y a deux. Enfin, moi, j'entends deux choses en fait. C'est-à-dire réconciliation et front commun. C'est pas la même chose pour moi. Je pense que si on est dans une position qui fait qu'on se dit, oulala, tout se casse la gueule, on est de moins en moins nombreux dans une société hostile. Mettons-nous en position défensive. Faisons alliance, on n'est pas du tout d'accord, mais comme les autres sont pires, on va s'arranger entre nous. Je pense qu'on va pas aller très loin. Ça s'appellera peut-être la secte, en fait. Ça sera pas du tout, on ne sera pas du tout dans une dynamique d'évangélisation. Par contre, si on prend la première partie de votre proposition et qu'on dit qu'on est appelé à se réconcilier, là, moi j'y crois très 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 profondément. Et j'y pense assez souvent, ayant eu l'occasion, à l'invitation des traditionalistes, je dois le dire, de participer à un dialogue, je me suis toujours dit que l'Eucharistie ne pouvait pas être le lieu de nos divisions. C'est quelque chose qui est juste insupportable. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ça, je crois que c'est la question qui est posée, mais c'est une question qui est posée à chacun personnellement, qui est posée à chaque communauté communautairement, et qui est posée dans l'Église à toutes sortes de lobbies, de groupes qui défendent des positions, des pétitions, des précarés, parfois des prébendes, et tout ça et n'a pas grand-chose à voir avec l'Évangile. Après, moi, je trouve que c'est pas si difficile que ça de se réconcilier, parce que quand je vous écoutais, moi, je comprends très bien ce que vous dites. Ce besoin de renouer avec une tradition dont vous avez dit d'ailleurs très justement qu'elle était moderne, puisqu'en fait vous la découvrez, et donc elle se réinvente aussi. Donc c'est normal que vous ayez besoin de se retrouver avec ce que vous appelez du sacré, avec de la beauté, mais bien sûr, et que ce soit un fait marquant de notre époque, c'est incontestable. Mais chaque époque a des besoins différents. On est dans des sociétés qui changent très 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 vite. Il y a des générations qui ont été saturées de traditions, de rites, de signes qui en pouvaient plus, qui ont tout envoyé valser, peut-être aussi, j'espère, dans le but de revenir à quelque chose qui serait pour elles plus près de l'Évangile. J'entends et je respecte, et je vois qu'aujourd'hui, il y a aussi, dans votre génération, beaucoup de personnes qui ont ce besoin de renouer avec quelque chose dont le fil a été peut-être coupé. Mais ce n'est pas non plus tout ça, l'Église, d'ailleurs, vous l'avez dit justement. Alors, après, pardon, je me permets une petite parenthèse, mais quand on dit je préfère une messe, au fond, traditionnaliste, bien célébrée, qu'un concert de guitare qui remplace la messe. Moi, j'ai envie de dire, ça me rappelle l'époque où il y avait les débats sur le mariage pour tous, et les militants du mariage pour tous disaient, il vaut mieux un couple pour le bonheur des enfants, il vaut mieux un couple homosexuel qui s'entend bien qu'un couple hétérosexuel qui se déchire. Ben oui, mais enfin, la comparaison est biaisée, vous voyez ce que je veux dire. Il faut comparer des choses comparables. Donc si on compare des liturgies, comparons des liturgies bien célébrées avec des liturgies bien célébrées. Ou des liturgies mal célébrées avec des liturgies mal célébrées. Et je pense que dans l'ancien temps, avec l'ancien missel, il devait y avoir un certain nombre de liturgies mal célébrées. Et d'ailleurs, quand on regarde les raisons pour lesquelles il y a une réforme liturgique, le travail qui a été fait dans les années 50, ici, il y avait le chanoine Martimor, qui était un grand, grand réformateur de la liturgie. C'est lui qui a vraiment participé aux réflexions de Vatican II sur la liturgie. Mais il se trouve que je l'ai connu dans mon enfance, ici à Toulouse, le chanoine Martimor, il était toujours en soutane. Vous voyez, donc voilà. Et ça ne rentre jamais dans les cases exactement, c'est ça que je veux dire. Donc il y a des besoins d'époque et il faut les entendre et pas se réfugier dans des postures idéologiques.
Je vais rebondir sur cette question du temps, de l'époque, de la génération, avec une question du public qui nous dit, les tradis semblent plus jeunes, est-ce qu'il y a un conflit de génération? Jeunes et vieux ne peuvent-ils plus s'entendre? Rémi Lafaille.
Je pense effectivement que l'aspect générationnel est fondamental. Excusez-moi. Comme je disais, comme j'ai pu dire, par exemple le mercredi à ma paroisse, il y a une messe des étudiants et des jeunes professionnels. Il y a du monde. La moyenne d'âge, ça doit être 25-26 ans. Et même le dimanche, pour la grand-messe chantée, etc., je dirais que la moyenne d'âge, c'est quelque chose comme de l'ordre de 40 ans, 40-45 ans. Voilà. Beaucoup de familles, beaucoup de jeunes, et bien sûr des anciens. Hein, il faut accueillir tout le monde. Mais oui, il y a quelque chose de générationnel. Et je dirais qu'on parlait de droite, gauche, etc., qui sont des mots un peu galvaudé, puisque qui peut dire ce qu'est la gauche, ce qu'est la droite, etc. Moi, je pense que c'est plutôt en rapport au monde. Dans les années 50, 60, 70, dans la continuité de la libération, on pensait pouvoir réinventer le monde, je pense. Il y avait un grand espoir. Les gens étaient dans une dynamique. On va se retrousser les manches, on va changer. Et nous, ce changement, on se l'est pris un peu dans la figure, excusez-moi, et on se retrouve dans une société déstructurée dans le sens où la famille, un nombre de divorces énorme, les communautés paroissiales n'ont pas la vitalité qu'on pourrait souhaiter, malheureusement dans trop souvent des cas. Et donc, en fait, le monde, pour nombre de jeunes, je pense, et je ne suis pas évidemment porte-parole de la jeunesse, Deo gracias, et... le rapport au monde. Je pense qu'il y a fondamentalement un rapport au monde et la recherche, justement, on a trop subi le monde et on a besoin un moment d'élever notre regard sans prendre les atours du monde. Voilà.
En même temps, c'est aussi le propre de chaque génération de penser qu'elle veut, qu'elle doit et qu'elle va changer le monde. Et le socle de la foi, de toute manière, qu'on soit catholique tradi ou catholique chacha, il est identique, c'est le Christ. Marc 3, 24, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et c'est ce que nous dit une des questions du public, malgré les différences, est-ce qu'on reçoit quand même l'évangile de la même manière, Anne Cazenave?
Je crois que chacun est unique et différent. Donc Dieu nous a créés uniques. Il nous aime d'un amour unique aussi. Donc je crois que, voilà, on reçoit le Christ, chacun. Dans notre propre histoire, et que, bien sûr, ce qui quand même, le message vraiment commun, c'est le Christ, et c'est l'amour du Christ, c'est une religion de l'amour. Et je pense que vraiment, c'est ça ce qui peut nous dire, mais qu'aurait fait le Christ à ma place ? Est-ce qu'il a accueilli les publicains, les prostituées ? Est-ce que le tradi qui est en face de moi, qui vraiment n'est pas du tout comme j'aurais envie de vivre, voilà, et est-ce que le Christ l'aime pas lui aussi ? Alors voilà, je crois que c'est vraiment une question qu'on a à se poser. Chacun, on est unique pour le Seigneur, donc c'est vraiment important de toujours voilà, avoir cette question et de pouvoir voilà, se déplacer, c'est un dessaisissement. Et c'est vrai que c'est compliqué, et c'est vrai que c'est compliqué d'accueillir l'autre. Mais je crois que c'est vraiment un grand défi qu'on a aujourd'hui dans notre Église, c'est d'essayer de trouver des espaces de dialogue, non pas pour ramener les tradis chez nous ou que les tradis nous ramènent chez eux, mais qu'on puisse trouver un espace de dialogue, un espace de qu'on puisse apprendre à s'aimer et construire quelque chose de nouveau. Il me semble que c'est ça, c'est quand même quelque chose de voilà, enfin avoir une vision voilà de l'unité, voilà, que tout soit un afin que le monde croie. C'est quand même une parole forte de Jésus avant sa passion. Donc je crois que c'est quelque chose de voilà d'avoir toujours ça voilà et de demander vraiment à l'Esprit Saint. Moi je sais que j'ai une petite anecdote très courte à raconter. J'avais un curé qui faisait des études de droit canonique. Alors il était extrêmement rigide et à l'époque il était modérateur, donc il venait juste pour célébrer la messe et donc on nous avait chargé de préparer la messe. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de photocopieuse, tout ça. Donc, j'écrivais ça à la main. Et lui, donc, il fallait que je lui montre au début de la messe, comme une petite fille, est-ce que ça va ce que j'ai préparé ? Et lui, il me soulignait en rouge les trucs. Mais non, mais ça, c'est pas du tout canonique, mais ça va pas du tout, il ne faut pas mettre ça. Enfin, bon, bref, quand je chantais, en fait, il ne chantait jamais, parce que c'est moi qui animais. Et il me disait à la fin, oh là, vous avez fait une blanche pointée au lieu d'une blanche. Bon, et moi, du coup, j'étais complètement terrorisée, j'étais très jeune à l'époque. Et en fait, je me suis dit, mais comment je vais faire pour l'aimer ce curé ? Enfin, comment je vais faire pour aller à la messe et débarrasser de toutes ces émotions négatives ? Et en fait, tout d'un coup, je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint qui m'a soufflé ça, mais je me suis dit, ben, je vais prier pour lui tous les jours. Et j'ai fait ça pendant 3 mois, et tout d'un coup, ce curé s'est ouvert. On a pu avoir un espace de dialogue, pas du tout sur la foi, c'était voilà, sur Notre-Dame de Paris, voilà, parce que on avait des choses en commun sur Notre-Dame de Paris. Et petit à petit, ben, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à l'aimer. Mais c'est vrai que ça m'a demandé et que je vous assure que j'en ai bavé. Mais en même temps, quelle joie de pouvoir, voilà, de pouvoir être libérée de, finalement, de tout ce qui me gênait, enfin, qui me menottait, j'allais dire.
Vous faites des transitions absolument magnifiques, Madame Cazenave. Mais avant d'entamer cette troisième étape sur la co-construction, moi j'ai envie de revenir à la charge une dernière fois et je vais demander à Jean-Pierre Denis, est-ce qu'on peut encore se permettre d'être divisé en tant que catholique dans le monde dans lequel on vit ? Est-ce que finalement c'est pas se tirer une balle dans le pied, sachant que nous sommes moins nombreux et que se pose aussi la question du contre-témoignage qu'on entend quand même souvent on l'a tous entendu, c'est un jour dans notre entourage, ouais, enfin, si c'est ça être catho, merci, mais non merci. Vraiment, est-ce qu'on peut encore se permettre d'être divisé, catho tradi, catho chacha ? Est-ce que finalement, c'est vraiment une question à se poser ?
Bah, ça dépend, hein, parce que quand c'est une blanche au lieu d'une blanche pointée, c'est quand même grave. Hein. Donc, il y a des sujets qui sont, comment on appelle ça, des points non négociables. Voilà, c'était à la mode à l'époque du pape Benoît XVI, on parlait de points non négociables. Alors, on a tous nos points non négociables, en réalité. La seule chose qui ne me paraît pas négociable, c'est la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le salut du monde. Si on est à peu près d'accord sur le credo, je pense que ça devrait aller, non ? Enfin, franchement, faut relativiser, faut redescendre. Voilà. Le problème, en fait, à mon avis, le problème, c'est je ne dirais pas que la politique c'est une mauvaise chose, on a besoin de chrétiens engagés en politique, etc. Mais on a cette grille en fait qui s'impose à nous. Alors c'est particulièrement vrai, je trouve, de l'extérieur, parce que comme, alors en particulier les journalistes, ne comprennent à peu près plus rien à ce que c'est que la foi, pas seulement l'Église, mais la foi, tout est ramené à des questions de politique. Donc dès qu'il y a cette grille de lecture pour appréhender l'Église, ben, alors tout le monde s'en empare parce que ça rassure tout le monde. Voilà, il y a le pape François est-il de gauche ? Bon, le pape Benoît XVI était-il réactionnaire ? Bon, et là on ramène tout à ces grilles-là. Et moi je trouve que c'est assez désespérant. Voilà, il y a des vraies différences. Enfin, elles existent, on le sent bien, il y a des histoires, mais il faut juste descendre un tout petit peu. Parce qu'en effet, vous avez raison, on n'a plus aucune. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de crédibilité, ce qui est un peu dommage parce qu'on a un peu des choses à dire et un peu des choses à apporter à notre société. Le spectacle qu'on donne, c'est « je suis plus catholique que toi » et comme tu ne penses pas comme moi, tu n'es plus catholique, ça va pas aller très loin parce que ça ne correspond pas du tout à ce que vous exprimez quand vous dites que voilà comment vous êtes revenu à la foi. Vous avez une sensibilité qui vous porte à quelque chose qui vous amène dans un milieu traditionnaliste, mais vous n'êtes pas revenu par la politique, vous n'êtes pas revenu par une analyse de la situation de la société française en disant donc il faut faire ça. Voilà. Ça c'est de la cuisine, mais bon c'est important la cuisine, mais c'est à mon avis on n'est pas là pour ça quoi.
On y vient, on est dans les starting blocks depuis le début de la conférence sur ce troisième point, hein. Tous catholiques au service du Christ, comment la co-construction est-elle possible ? Alors, sans relativisme, justement, et concrètement, comment on tempère ces divergences ? Rémi Lafaille.
Par l'unité. Mais par l'unité, quelle unité ? Parce qu'on peut être unis dans nos diversités de sensibilité et d'expression de notre foi, mais ça suppose au préalable d'être clair sur notre foi. Or, quel est un peu le grief de ce que je peux voir des tradis, entre guillemets, envers les modernistes ? C'est que la tentation ne s'arrête pas à adapter la forme, mais d'adapter le fond. Que si on lâche sur la forme, in fine, le risque, c'est de lâcher sur le fond. C'est ça la crainte, je pense. Il y en a qui disent, je ne veux pas courir ce risque, le dépôt de la foi est trop précieux. Donc restons sur une forme qui malgré tout a fait ses preuves et ne prenons pas le risque du dévoiement de la foi. Donc c'est ça, je pense, en grande partie, la crainte des tradis. Et pour dépasser cette crainte, il faut tout simplement dire, on est d'accord, il y a un bouquin qui s'appelle « Le catéchisme de l'Église catholique ». Je pense que si on partage ce qu'il y a écrit là-dedans et qu'on est clair sur le fait qu'on le partage et sur la volonté de le vivre, on dépassera tout ça. Mais ça a un rapport déjà au contenu de la foi et le rapport à la vérité. Est-ce que la vérité est relative ou absolue ? Est-ce que la vérité s'adapte au monde ou la vérité est transcendante ? Et je pense que tant qu'on n'aura pas résolu ces deux points, toute unité sera un mariage mal fagoté, en réalité.
C'est très intéressant qu'au moment où on clôt le sujet, on entre enfin dedans de ces différences qui peuvent effectivement diviser. Et c'est justement une des questions du public qui nous disait tout à l'heure, mais j'attendais que ça sorte. La division de l'Église n'est-elle pas plutôt entre catho-conservateurs et catho-progressistes ? Alors, pour reprendre et pour rester dans la continuité de cette idée de comment est-ce qu'on n'édulcore pas le fond, Anne Cazenave, comment est-ce qu'on n'édulcore pas le fond, ce qui est tangible, la Bible, la parole du Christ ? Comment on peut apporter un décorum plus moderne à la liturgie ? Comment est-ce que vous le faites au Chemin Neuf ? Et vous rejoignez les jeunes, notamment, moi je me souviens quand j'étais étudiante, c'était des soirées où on nous invitait à boire de la bière pour parler de Jésus. Est-ce qu'on peut aussi faire ça en gardant la même base et le même socle ? Est-ce que tous les deux, vous êtes assis sur le même banc, finalement vous croyez au même credo ?
Alors écoutez, je ne sais pas, mais j'espère. J'espère. Moi, je crois qu'on dit beaucoup dans la communauté du Chemin Neuf où on vit avec des protestants, enfin évangéliques, luthériens, de la réforme, des orthodoxes aussi, qu'en fait, l'autre confession, mais je pense qu'on peut l'appliquer aussi aux catholiques, est une chance, est vraiment une chance. Il faut vraiment croire que l'autre est une chance pour moi. Puisque quand je vais aller sur le chemin, vers l'autre, eh ben, ça va ouvrir aussi et peut-être accepter cet inconfort, parce que c'est quand même un inconfort aussi, hein, d'aller sur le terrain finalement qu'on ne connaît pas bien, où on est déstabilisé, comme tu disais Rémi, d'être déstabilisé par une messe où tu ne comprends pas vraiment. Voilà. Mais en même temps, je crois que c'est vraiment un chemin d'ouverture et de cette vision finalement commune que cette promesse du Christ que tout soit un puisse advenir. Alors on n'y est pas encore, c'est sûr, mais en même temps je crois qu'il faut vraiment, c'est un scandale quand même d'être divisé, je veux dire, c'est un contre-témoignage, on porte vraiment préjudice à ce témoignage dont nous catholiques on doit rendre compte. Donc c'est le cœur de pour moi c'est vraiment extrêmement important quoi, c'est comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment avoir ça. Enfin, moi, pour moi, je porte ça beaucoup, d'essayer d'aller sur le terrain de l'autre et de l'écouter. Alors, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui, mais c'est que je peux l'écouter. Et c'est vrai que cette religion juive écoute Israël, c'est écoute. Mais moi, il me semble qu'avec les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens, ça part dans tous les sens. On ne prend plus le temps d'écouter l'autre, la personne en face. Bon, là, on est en face, on peut s'entendre, on peut s'écouter. Mais voilà, ça va trop vite, quoi. Et ce temps, cet espace, ce temps a besoin d'exister pour qu'on puisse vraiment construire quelque chose.
Ce temps et cet espace, vous, Anne Cazenave, vous l'avez trouvé. Et vous avez un très bel exemple que vous m'avez raconté, sans nécessairement parler d'œcuménisme, parce que on est bien dans cette même et seule famille catholique. Vous avez vécu ce beau projet commun qui peut rassembler un chacha, un tradi, au service de l'Église. Vous voulez nous le raconter ?
Bon, alors là, c'est un tout petit exemple d'œcuménisme catholique, j'allais dire. Il y avait un couple très classique qui avait été au congrès mission à Paris, un des premiers, pour faire l'école des charismes. Pour eux, c'était quelque chose de complètement inconnu. Et ils sont revenus transformés les soirées de guérison. Et ils nous ont dit, eux, et en fait, ils habitent dans un petit sanctuaire à la campagne, juste à côté de Tarbes, qui est Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame de Pietate. Et ils ont dit, ce lieu, beaucoup de gens s'arrêtent pour laisser des bougies et laisser des intentions de prière, même s'ils ne sont pas du tout pratiquants. Et je crois qu'ils ont eu cette intuition que ce serait peut-être bon de faire des veillées de prière, pour les gens, tous ces gens qui souffrent. Et du coup, ils ont réuni autour d'eux toute une palette de gens, mais vraiment, ça va du archi-tradi à une sœur des Béatitudes, à un couple assez classique, une polonaise avec toute cette tradition polonaise qui n'est pas tout à fait notre culture, et puis des Africains aussi qui ont une culture africaine, donc avec une façon d'exprimer et de vivre leur foi aussi différente. Et en fait, nous, quand on nous a embarqués dans ce groupe-là en tant que chemin neuf, je me disais, oh là là, ça va être dur et tout ça. Et en fait, ça a été absolument magnifique. Magnifique. On a d'abord beaucoup prié ensemble, connaissant nos différences. Et puis, on a réussi à s'écouter. Et finalement, il y avait aussi une musicienne avec guitare électrique, mais une fille qui fait de la pop louange, et qui est assez connue d'ailleurs. Et franchement, on a eu des témoignages extraordinaires de gens qui ont été touchés par des paroles qui sont vraiment, qui sont revenus au Christ, qui ont été guéris aussi, de guérison physique ou spirituelle. Donc on a eu beaucoup de témoignages de retour et on a pu faire une relecture avec notre évêque d'aujourd'hui qui nous a vraiment encouragés à continuer. Mais voilà, moi ça m'a donné énormément d'espérance parce que je me suis dit que c'était possible en fait, c'était possible. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre du temps et repartir de la base, c'est-à-dire de prier ensemble, de vraiment d'invoquer l'Esprit Saint pour que vraiment il nous donne ces chemins nouveaux pour construire l'Église de demain.
Vous, Jean-Pierre Denis, vous dites carrément qu'il y a une méthode de travail à adopter pour faciliter cette harmonie et cette co-construction entre les catholiques. Oui, alors j'ai... Je pense que ça fonctionne.
Merci. Oui, alors une méthode, bon, j'ai un peu exagéré quand on s'en est parlé, mais je vais dire quand même ce que j'ai en tête. Dire que c'est pas facile. Mais en fait, c'est pas facile. Faisons un petit tour. C'est pas facile toujours pour un prêtre de parler avec son évêque, pour un évêque de parler avec ses prêtres, pour un couple de se parler, pour de parler à ses parents, de parler à ses enfants, de parler à ses amis. Vous voyez, en fait, se parler, c'est pas toujours facile. On n'a pas toujours beaucoup de courage pour aller, en fait, aborder les sujets. Donc, ma première proposition serait de commencer par enlever les étiquettes. Il y a quelques années, il y avait un livre qui s'appelait, j'avais eu l'occasion de préfacer, qui s'appelait « Catholique sans étiquette ». Et je pense que c'est une très bonne première chose à faire. Parce que quand j'entends catholique, tradit, catholique, je ne sais plus quoi, moderniste, catholique, charismatique, catholique... En fait, j'ai envie de dire, je vais faire mon Saint-Jérôme, mais ça me semble hérétique. C'est-à-dire qu'au sens où catholique, ça suffit. Donc après, on va rentrer dans quelque chose qui méritera discussion, mais ça suffit. Donc, moi, je n'ai pas envie d'accoler une autre étiquette. Évidemment, ces étiquettes, elles sont collées, mais ça me fait penser, vous savez, à ces bocaux de confiture sur lesquels on avait des étiquettes collées très, 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 très fort, et puis après, on n'arrive jamais à les décoller, mais on veut mettre une autre confiture dans le pot. Donc, essayons de mettre des étiquettes qui se décollent un peu plus facilement, et ça ira mieux. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à partir de là, on peut oser un vrai dialogue. C'est-à-dire que si je commence à vous mettre une étiquette en disant « Ah oui, vous êtes tradit, donc en fait, vous êtes un militant d'extrême droite », ça va peut-être rendre notre discussion un peu plus difficile. Donc, première chose. Deuxième chose, il faut oser parler des problèmes. Ça, oui, ça c'est un vrai sujet. Je disais que c'est souvent très difficile. Et souvent, on a du mal. On a du mal. Il faut oser parler des problèmes. Et par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai entendu parler de la vérité, je me suis dit, ben là, j'ai un problème. Voilà, il y a un sujet de discussion intéressant. Parce que on touche à quelque chose de très profond sur lequel j'aurais envie d'échanger. Parce que la vérité, pour moi, c'est le Christ. Donc la vérité, je ne la possède pas. Donc je me méfie d'une position où je semblerais dire « j'ai la vérité », premièrement, et deuxièmement, à supposer qu'on se mette d'accord là-dessus, Jésus a dit, il n'a pas dit « je suis la vérité », il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc, il y a quelque chose à trouver qui soit dans la vérité, qui soit dans la vie et qui soit en chemin. Voilà. Donc là, on peut commencer à discuter. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous voyez, je donne ça comme exemple parce que c'est en vous écoutant, je me dis, là, on peut arriver à discuter et je suis sûr qu'on va avoir une discussion à ce moment-là profonde, intéressante, et elle ne sera pas idéologique. En fait, on va commencer à parler, justement, comme par hasard, on va commencer à parler de Jésus. Donc voilà, ça serait mes deux propositions, méthode, vous avez compris que c'était un peu exagéré, mais enlevons les étiquettes et puis essayons d'oser aller, en fait, du coup, plus facilement au fond des choses et à un endroit où peut-être on va se retrouver, parce que je suppose que si je vous dis Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, vous n'allez pas me dire non, Jésus n'a pas dit ça, parce que vous savez comme moi que Jésus a dit ça. Donc on va pouvoir discuter de ce que ça veut dire pour nous. Voilà, mes deux propositions.
On va rebondir sur cette réflexion qui est très intéressante et renvoyer la balle à Rémi Lafaille qui puisse se défendre avec justement une question du public qui dit: un chrétien peut-il détenir le projet de Dieu? C'est plus ou moins la question que vous venez de poser, Jean-Pierre Denis. Et deuxième question, pour vous aider à orienter votre réponse, n'est-ce pas le rassemblement des différentes idées qui peuvent nous permettre de tendre vers ce projet divin?
Écoutez, donc je disais, oui, je pense qu'on partage effectivement cette citation, mais faire du boulite versé de la Bible, je dirais aussi, mais le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, elles, ne passeront pas. Donc on voit qu'en réalité, au-delà des sensibilités, etc., le fond, c'est le rapport à la vérité, etc. Et qui, et on parlait de qui peut dire j'ai la vérité. Certains pourront dire la vérité se passe de je. La vérité est transcendante et précède même la création du temps. Bon, bref. Tout ça pour dire que il y a effectivement, je pense, c'est pas juste de l'esthétique, etc. C'est, moi, je suis juriste. Et la forme sert le fond réciproquement, etc. On parlait d'étiquettes. Mon prof de droit civil disait souvent, les étiquettes, c'est pas pour coller sur des pots de confiture, c'est pour savoir le régime juridique qu'il y a derrière. Bon, quel est le régime juridique du catholique? C'est pour ça que j'insiste mordicus sur le catéchisme. Voilà. Je pense que fondamentalement, il y a le rapport à la vérité, au dogme, qui convient d'éclaircir. Et on le fera pas, malheureusement, aujourd'hui, je pense.
En revanche, ce qu'on peut faire, Rémi Lafaille, c'est parler d'amour. Parce que c'est comme ça, que vous avez réussi à rentrer dans la co-construction. Et comme le Seigneur vient toujours nous chercher là où nous sommes, il est venu vous chercher très simplement dans l'amour fraternel au sens pur et dur. C'est en regardant votre sœur se construire et s'épanouir dans des communautés chrétiennes classiques, disons, encore une fois, pour aider le débat, que vous vous êtes dit, mais en fait, il faut de tout pour faire un monde et l'essentiel, c'est de croire en la même chose.
Tout à fait, puisqu'au début, comme je vous disais, je ne pratiquais plus, donc j'ai cherché, pour le coup, on parlait de choisir la paroisse, là, ça s'est fait un peu naturellement, mais il y avait quand même une recherche, j'ai choisi ce qui correspondait un peu à mon approche philosophique de la vérité, etc. Et la tentation du converti, même si je suis un faux converti, si on peut dire, voilà, c'est d'être extrême, donc d'être un intégriste. Ça peut être la tentation, dire j'ai la vérité, tous les autres c'est des tocards, ils n'ont rien compris, et voilà, ils n'ont qu'à nous suivre. Donc ça peut être une tentation, ça peut être la tentation de rejoindre la fraternité Saint-Pédis, etc. Surtout que c'était très commode, moi, à l'espèce, puisqu'il y a des communautés à 20 minutes de chez mes parents, mais ça n'a pas été la mienne. Pourquoi? Parce que ma sœur et moi, nous sommes revenus à la foi à peu près en même temps. On est allé se confesser à peu près en même temps, on s'est soutenu dans ça. C'était pas facile après des années d'errance, si je puis dire. Et on juge un arbre à ses fruits. Et ma sœur, elle, s'épanouit dans des communautés, si je puis dire, modernes. Voilà, c'est pas... Donc, ma sœur, je l'aime. Quand j'y suis allé, j'ai pas entendu trop d'hérésie. Donc bon, pourquoi pas? Et je ne vous cache pas que l'aspect sacré, etc., sacrificiel, ça peut être aussi malsain, dans le sens si on se coupe de l'amour de Dieu, on est juste une religion de masochiste. J'ai une morale à respecter, et comme le pharisien va se sauver lui-même par son comportement, je vais me sauver par le respect d'une morale indépendamment de la grâce. Non. Donc partant de là, être trop dans l'introspection, je serai jamais un saint, etc., etc., ce n'est pas bon. Être trop à contrario dans que l'amour, ça me paraît malsain aussi. Et c'est pour ça que je pense que faire des ponts entre les deux, que des modernes aillent chez les tradis pour se rendre compte que c'est pas tous des fachos, entre guillemets, et réciproquement que les modernistes sont pas tous des gauchistes, ça serait profitable. Voilà.
Vous êtes la jambe, Anne Cazenave est le bras, Jean-Pierre Denis, vous êtes l'œil, et dans l'assistance, nous avons l'oreille, les orteils et peut-être le cœur. Nous sommes finalement tous membres d'un même corps, celui du Christ. Est-ce qu'il n'est pas normal que nous soyons différents? Est-ce que nous devons nous réjouir de ces différences, Jean-Pierre Denis?
Bon, déjà, vous voyez, on a beau avoir des différences, on se passe le micro, hein, donc ça va. On pourrait le garder aussi. Bien sûr qu'il faut se réjouir. Bien sûr qu'il faut se réjouir parce que. Mais d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, puisque les 30% de Français qui ont une Bible chez eux se sont peut-être aperçus qu'il y avait 4 évangiles. Donc il y a peut-être une raison s'il y a 4 évangiles canoniques. Donc on est parfaitement dans le canon. Donc, et pourtant, il y a 4 évangiles qui n'ont même pas exactement, vous l'avez noté, le même récit de la Passion, ce qui est tout de même un petit peu embêtant, parce que c'est un sujet tout de même un petit peu important. Donc vous voyez, c'est, pour moi, ça veut dire que c'est posé là, j'allais dire, c'est inspiré. C'est-à-dire, c'est une réalité, en fait, c'est que, pour le prendre peut-être avec d'autres mots moins présomptueux, c'est que là, l'existence des quatre évangiles, ça dit déjà la reconnaissance de ce qu'est l'être humain. Et ça dit aussi le fait qu'on ne va pas pouvoir, soit tout seul, à travers un seul texte, un seul point de vue, dire le tout de quelque chose qui nous dépasse infiniment. Et puis il y a les sensibilités, il y a les générations, il y a les cultures. Vous allez dans un pays d'Afrique, j'étais cet été dans une messe au Kenya, je peux vous assurer que d'abord c'est parce qu'il y a la moitié de la population qui a moins de 18 ans, et donc ça ressemble pas du tout à une messe traditionnaliste, bon pas du tout, mais vraiment pas du tout, voilà. Et c'est pas ma sensibilité, donc je suis un peu déconcerté quand je vais là-bas et je me dis c'est quoi ce truc-là, voilà. Et je pense que c'est profondément bon et je pense que Dieu se réjouit de toutes les manières que l'homme peut trouver pour le rejoindre, lui rendre grâce et et faire son chemin de salut. Cette cathédrale est magnifique. Mais je préfère quand même Saint-Sernin, vous voyez, donc j'ai pas la même sensibilité. J'ai pas été par hasard baptisé à Saint-Sernin, donc et marié, voilà. Mais donc, vous voyez, on a tous nos sensibilités, en fait, donc c'est une très bonne chose, oui, c'est une très bonne chose. Ce qui est une très mauvaise chose, mais je vais dire ce qui est quelque chose de littéralement, à mes yeux, de diabolique, c'est-à-dire au sens d'une division vraiment animé par le malin, c'est quand ces différentes sensibilités sont cristallisées et utilisées pour des fins qui sont extérieures en fait à l'évangile, au message de Dieu et à des fins mondaines, voilà. Donc, mais je m'inclus, hein, je dis pas on a tous évidemment une tendance à mélanger les genres, donc ça serait bien d'essayer de les distinguer un petit peu.
Face à la petitesse de nos humanités, face à la tentation de la modernité, comment le maître devient serviteur? Comment est-ce qu'on se met à l'écoute de son frère pour mieux le comprendre, Anne Cazenave?
Vaste programme. C'est vrai, je crois que il y a vraiment... je le dis souvent, mais voilà, il faut essayer de penser... comment l'autre pense. En fait, essayer de faire ce chemin vers lui plutôt que d'essayer de se dire oh là là, mais il pense pas du tout comme moi, mais ça va pas du tout, quoi. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et voilà. Et ce chemin, eh ben, c'est pas si facile que ça. Bon, voilà. Mais il faut le savoir, il faut en être conscient. Mais je crois que c'est vraiment très important dans cette posture finalement d'écoute, de faire ce chemin vers l'autre et de pouvoir essayer de comprendre avec mes propres limites. Hein. Je veux dire que je suis pas meilleure que lui, que le Seigneur il va le sauver comme il va me sauver. Enfin, je veux dire voilà, et il me semble que c'est vraiment quelque chose qui est toujours à construire. Et toujours à purifier, en fait, à faire une conversion. Et voilà, ça ne va pas de soi, c'est sûr, mais le péché est bien là. Donc, moi, il me semble que c'est vraiment très important et que ça nous remet sans arrêt en route, en fait, vers ce message du Christ, quoi. C'est le Christ qui nous unit, c'est pas le fait de savoir qu'il va mettre une belle robe et déguiser les enfants de cœur ou pas, quoi. Voilà.
On est tous unis par le corps et le sang du Christ et en même temps, pour faire un parallèle ou une analogie, il n'y a qu'à regarder dans nos familles unies par les liens du sang. Elles ont beau être très catholiques, elles ont beau être très charitables, il suffit d'un mort et d'un héritage pour que tout le monde se divise. Est-ce que finalement, c'est pas aussi bon signe qu'on se dispute entre cathos? Est-ce que c'est pas sain? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça veut pas dire que justement on est tellement frères et sœurs en Christ qu'on n'a pas peur de se disputer, on n'a pas peur de se dire les choses, on n'a pas peur de pas être d'accord? Parce qu'au fond, c'est peut-être comme ça aussi qu'on apprend à s'aimer. Rémi Lafaille.
Écoutez, je pense même que c'est l'histoire de l'Église, l'universalisme chrétien précisément, qui a été de déployer une même doctrine de manière différente dans le temps et dans l'espace. Si je regarde aujourd'hui les dévotions populaires, par exemple au Pérou ou autre, qui se basent sur leur substrat païen, etc., la foi catholique que nous partageons se déploie formellement de manière différente dans un espace, tout comme dans certaines régions, il peut y avoir des processions chez nous, etc., etc. Donc, l'universalisme chrétien, il me semble, ce n'est pas le lissage, la normatisation formelle des chrétiens, mais c'est justement le déploiement foisonnant d'une même réalité à travers le temps et l'espace. Donc oui, la diversité, c'est une richesse, puisque le message chrétien, il me paraît devoir se déployer de manière différente ou selon des outils différents dans le temps. Et moi, je pense que la mauvaise tentation, c'est de vouloir imposer sa forme aux autres et de refuser cette diversité qui nous nourrit et qui est notre essence même en réalité.
Qui dit dispute, querelle, divergence, différence, doit aussi dire pardon. Est-ce qu'on a besoin, entre Kato Tradi, entre Kato Chacha, en France, de se demander pardon, Jean-Pierre Denis ?
Ben, certainement. Certainement, mais de quoi ? Alors, c'est ça qu'il faudrait creuser. Voilà. Certainement, ben, vous voyez, parce qu'au fond, ben, là, quand je vous écoutais, vous voyez, on a, en fait, quelque part, c'est... du point de vue de notre débat, c'est une catastrophe parce qu'on s'aperçoit que finalement, quand on avance dans la discussion, on arrive à toucher des points qui sont des points assez profonds. Et donc, voilà, on va arriver à un moment où la question ne se pose plus en termes de... On a évacué des présupposés un petit peu haineux. Voilà. Donc, oui, bien sûr, on a besoin. Mais surtout, on a besoin, une fois que c'est... Enfin, comment dire, souvent, on a une façon de dire demander pardon, c'est une façon d'évacuer les sujets et de refermer le couvercle. Voilà. Donc, s'il y a des choses à pardonner ou à se pardonner, il faudrait savoir lesquelles. Mais dans l'Église catholique, parfois, une façon d'utiliser, ouais, je te demande pardon, mais en fait, on n'est pas allé au bout de la réconciliation. Voilà. Et moi, ce chemin de vérité, tiens, ce chemin de vérité qui amène à aller au fond des sujets, qui est un chemin de guérison aussi, je pense qu'il est, il est au moins aussi important que l'étape du pardon que vous évoquez, qui est évidemment une étape profondément chrétienne. Et d'ailleurs, je pense que dans la société dans laquelle on est, cette capacité à faire ce chemin, qui est un chemin vers le pardon, pour surmonter des querelles, des divisions, des problématiques irritées de ne sait plus trop où, c'est quelque chose qui peut être aussi un très beau message pour notre société dans laquelle tout est de plus en plus impardonnable. Il y a de plus en plus de choses qui sont vraiment ça, c'est une, on peut pas pardonner, on peut pas, la faute c'est pour toujours, les gens sont condamnés médiatiquement à jamais. Donc oui, en effet, si on arrive à faire ce chemin, ça sera, on se sera pas divisé pour rien. Vous voyez, on sera arrivé à quelque chose qui sera plus profondément chrétien.
Je peux juste ajouter que je crois que pour faire ce chemin de pardon, il est quand même essentiel déjà de reconnaître sa blessure, et reconnaître la sienne, peut-être comprendre la blessure de l'autre aussi, et pouvoir enfin, voilà, avancer ensemble. Et finalement, nous, on a beaucoup l'habitude dans le chemin neuf de dire on est un pauvre devant un autre pauvre. Et voilà, et je pense que c'est vraiment important pour ce chemin de réconciliation.
Alors, concrètement, demain, dans 10 jours, dans un mois, dans 5 minutes, quand nous allons quitter cette cathédrale et que cette conférence sera achevée, est-ce que vous avez un conseil, une idée, une fulgurance, une intuition, Rémi Lafaille, pour entamer ce chemin de guérison ?
Pour entamer ce chemin de guérison, je pense qu'au-delà des débats, de l'intellectualisation, etc., essayons de vivre la charité. Essayons de vivre la charité et d'aller vers les autres au-delà de nos postures, de nos présupposés, etc. Vivons la charité, n'ayons pas peur, pour citer quelqu'un, n'ayons pas peur de notre foi, des exigences qu'elle véhicule, car c'est ça même qui élève l'homme, en réalité. Donc soyons fermes sur notre foi, soyons dans la joie et dans l'amour de notre prochain.
Alors moi, je vais redire un peu, mais que voilà, je pense que Dieu nous a créés uniques et qu'il voulait cette diversité, et que je pense que c'est vraiment une chance que l'autre soit différent. C'est une chance, et si on peut mettre nos forces voilà, différentes ensemble, construire ensemble, c'est vraiment, bon, on est en plein dedans, parce que ça va être le chemin de du synode sur la synodalité, mais voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose de bon pour l'évangélisation, et que voilà, le Seigneur se réjouit finalement de toutes ces forces créatrices, et que bon, voilà, à nous de les écouter et d'en faire jaillir quelque chose qui soit vraiment voilà, de l'évangile et de la joie de l'évangile, enfin, et de pouvoir annoncer le Christ de façon joyeuse et non pas mortifère. Et voilà, et moi je pense que c'est très important aussi le témoignage qu'on peut donner les uns les autres de notre foi en Jésus, pas forcément en voulant convertir, mais en vivant de cette joie de l'évangile.
Il va nous falloir conclure. Je crois que vous avez commencé à le faire, Anne Cazenave, si je ne me trompe pas. Rémi Lafaille, si vous deviez résumer la substantique moelle du message que vous vouliez faire passer aujourd'hui sur ce thème que je rappelle, qui était « Faut-il s'aimer entre cathos pour évangéliser ?» Qu'est-ce que vous voudriez nous dire ?
Je voudrais dire que, oui, il faut s'aimer entre catholiques pour aller vers les autres, parce que nos querelles sont parfaitement incompréhensibles pour le païen qui cherche un chemin de vie. Donc, avoir raison, si ça se fait au détriment du salut des âmes, c'est dommage. Donc, mettons-nous d'accord, comme je le répète souvent, sur le corpus que nous portons, allons au-delà de nos présupposés, de nos sensibilités, de nos réflexions, et bâtissons ensemble l'Église.
Anne Cazenave.
J'ai déjà beaucoup parlé. Hein. Je vais le passer à Jean-Pierre Denis.
J'allais y venir, mais on peut faire soupe mouton.
Et peut-être que vous avez senti tout à l'heure, quand vous avez parlé du pardon, que j'étais un petit peu mal à l'aise.
Oui, j'ai entendu.
Et maintenant, en y réfléchissant, je sais pourquoi. C'est parce que, en fait, on est dans une société où on est tous victimes. Donc on est constamment dans des postures victimaires. Et donc, on est blessé, etc. Donc, il faut que, évidemment, ce soit l'autre qui nous demande pardon parce qu'on est blessé. Moi, je pense qu'il faut sortir de ces positions victimaires. On est des adultes qui parlons de choses importantes. Et ça va, quoi. Ça va bien se passer. Donc, premièrement. Deuxièmement, du coup, c'est pour moi la chose la plus importante. L'identité étant posée, c'est l'ouverture de cœur, en fait. Donc c'est le contraire, pratiquement, d'une attitude qui dit « je suis blessé ». Parce que si je suis blessé, c'est que je suis encore dans une attitude où je cherche à me protéger. Donc c'est l'ouverture de cœur, d'être capable d'entendre. Vous avez d'ailleurs pas mal parlé d'écoute, et j'étais profondément d'accord avec ce que vous disiez. Et la troisième et dernière chose, pour conclure, c'est l'humilité. Parce qu'en fait, quand on regarde le film de ces dernières décennies, beaucoup d'entre nous sont arrivés en disant « j'ai la solution ». Et je ne ferai pas la liste, mais honnêtement, justement, je ne la ferai pas par principe. Et pour ne pas donner l'impression que je me réjouis que certains aient pu échouer, vous voyez, pas du tout. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, on est arrivés avec la solution. Et puis la société s'est de plus en plus déchristianisée, elle s'est de plus en plus sécularisée. Donc tout ce que l'on peut... Enfin, tous ceux qui prétendent qu'ils ont la réponse s'exposent au même risque, en fait, malheureusement, que à l'échelle de quelques décennies, ça sera de nouveau la désillusion. Donc, si on descend un petit peu avec modestie, en disant, ben, on ne sait pas trop comment se débrouiller dans cette société qui, malheureusement, n'a pas la chance d'avoir accès au message de Jésus-Christ. Donc, cherchons ensemble, essayons de trouver des solutions. Je pense que ça sera mieux. Voilà.
Vous avez raison, la seule réponse, c'est le Christ. Maintenant que les conclusions sont faites, nous allons remercier Thibaut Dautuile, qui est une des petites mains qui s'est occupée de tous les intervenants, enfin petite main, grande main même, de tous les intervenants, de nous mettre en relation avant. Voilà, c'est un travail qui est très important et qui nous a permis de vous offrir ce temps aujourd'hui. Et Sophie Ratier, qui était notre fil rouge, qui nous a accueillis, qui a modéré vos questions dans le public. Merci beaucoup. Et puis pour terminer, pour chuter sur ce très beau sujet, je vais vous offrir non pas ma parole, parce que finalement elle a assez peu d'importance, mais celle du Christ, de la Bible, qui est le texte fondateur avec lequel nous devons parler tous les jours. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Voilà, je vous laisse méditer cette phrase.
Eh bien, écoutez, il m'appartient de finaliser cette table ronde en remerciant évidemment Marie-Hélène Héroir qui a animé ce débat entre vous trois. Merci Anne Cazenave, merci Jean-Pierre Denis et merci Rémi Lafaille pour vos partages profonds et intenses. Alors nous, notre congrès continue, donc vous allez être invités par la suite à rejoindre des ateliers, à rencontrer de nouveaux congressistes. Ce soir, il y aura des veillées, en particulier il y en a une ici qui se tient à la cathédrale, animée d'ailleurs par des membres du Chemin Neuf. Et puis demain matin, nous aurons encore une table ronde ici même à la cathédrale à 9h. Donc le thème sera « Réseaux sociaux, peut-on influencer au nom de Jésus ?» Et je crois que Jean-Pierre Denis sera encore des nôtres. Alors c'est une chance. Voilà, merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous et puis bonne poursuite de votre congrès.